La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée au Petit Palais à Paris. Notre semaine porte sur l'écrivain irlandais Oscar Wilde. Oscar Wilde est mort à 46 ans seulement des suites de la syphilis, mais surtout de sa terrible incarcération, expérience de la fange et de la solitude dont il tirera néanmoins le beau poème qu'est la ballade de la geôle de Reading, ainsi que son De Profundis. Il faut ajouter à cela un seul roman, mais très célèbre, Le Portrait de Dorian Gray, et des pièces de théâtre aussi, comme son drame Salomé, ou ses comédies, L'importance d'être constant et Un mari idéal. Nous en parlerons jeudi avec Alain Jumeau, tandis que Pascal Acquien commentera des textes de l'écrivain en seconde partie. Mercredi, nous serons en compagnie du théoricien de la littérature et essayiste Tsvetan Todorov, puis d'Anatole Tomsak, qui a traduit cette année une version non expurgée du portrait de Dorian Gray, redécouverte en 2011 par deux universitaires anglais. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, mon invité est un spécialiste s-dandisme. Il a publié au PUF en 2008 une philosophie du dandisme, puis Manifeste Dandy chez Bourrin Éditeur, mais aussi un petit éloge de David Bowie, le dandy absolu, cette année chez le même éditeur. Et donc pour commencer cette émission, une phrase célèbre de Wilde, rapportée par un autre dandy qu'il a bien connu, André Gide.
Vous avez rappelé ce propos assez pathétique et qu'il vous a tenu un jour. Voulez-vous savoir le grand drame de ma vie? C'est que j'ai mis mon génie dans ma vie, je n'ai mis que mon talent dans mes œuvres.
C'est une phrase de Wilde qu'on a souvent citée. Je ne sais pas s'il l'a dit à d'autres qu'à moi, car Wilde se répétait quelquefois, sa conversation était très apprêtée, mais je crois pourtant, je ne l'ai vu que dans mon propre récit, et je crois cette phrase de première importance. C'est en effet le drame de la vie d'Oscar Wilde.
Bonjour Daniel Salvatore Schiffer.
Bonjour.
Cette phrase célèbre, j'ai mis tout mon génie dans ma vie et seulement mon talent dans mes œuvres, dont parle André Gide à Jean Amrouche, si elle a vraiment été prononcée par Oscar Wilde, c'est une aubaine pour le biographe que vous êtes, parce que ça signifie que, au fond, la biographie de Wilde, c'est une œuvre d'art.
Exactement, c'est d'ailleurs la définition du dandisme. Si l'on suit l'un des aphorismes clés d'Oscar Wilde, il faut soit porter une œuvre d'art, soit être une œuvre d'art. Donc le dandisme, c'est faire de sa vie une œuvre d'art, et de sa personne, une œuvre d'art vivante. C'est exactement cela, le dandisme.
Mais est-ce qu'on peut arriver à faire les deux en même temps?
C'est difficile. C'est pour ça que je me suis attaché, par exemple, à la figure de David Bowie, qui lui a réussi parfaitement cela. Sauf qu'il est allé même plus loin, lui. Il a fait de sa mort une œuvre d'art à travers son dernier disque, notamment son dernier clip vidéo.
Donc c'est le dandy absolu.
C'est pour ça que j'ai sous-titré ce livre, Petit danger de David Bowie, le dandy absolu. C'est une chose très rare, c'est pratiquement unique dans les annales de la littérature, parce qu'en général, les dandys finissent tragiquement. Oscar Wilde en est un exemple, il meurt à 46 ans. Dans des conditions atroces, à Paris d'ailleurs, dans une petite pension, là, l'hôtel d'Alsace, qui aujourd'hui est un hôtel célèbre et qui vit d'ailleurs assez sur l'aura que lui a conféré Oscar Wilde. Oscar Wilde meurt à 46 ans, comme vous l'avez très justement dit, après avoir purgé 2 ans de prison avec travaux forcés suite à son fameux procès en 1895, où il avait été condamné pour homosexualité, pour outrage aux mœurs. En fait, le vrai terme, selon la loi anglaise, c'était pour sodomie. À l'époque, c'était rigoureusement interdit. C'était un crime à l'époque très grave dans la société puritaine victorienne. Donc il s'affiche avec le jeune Lord Alfred Douglas, dit Bozzy, auquel il va adresser son De Profundis, sa dernière œuvre, posthume d'ailleurs, publiée. Et il meurt dans des conditions tragiques 2 ans après sa sortie de prison. Il meurt d'une otite qui n'a pas pu soigner parce qu'il est sans argent, qui se transforme en méningite encéphalique. Et puis, comme il est très très affaibli, et alors a-t-il eu ou pas la syphilis? Certains disent que non. Ses confidents les plus intimes, à la fin de sa vie, disent que oui. La version officielle dit qu'il est mort d'une méningite encéphalique, dans d'atroces souffrances, dans d'atroces douleurs. Et donc sa vie, sa fin de vie en tout cas, n'est pas une œuvre d'art, comme celle de Barbey d'Aurevilly d'ailleurs, et surtout de Lord Brummel ou de Baudelaire.
Donc il n'est pas un dandy absolu alors
Il n'est pas un dandy absolu si le dandysme consiste aussi, après sa vie, à faire de sa mort une œuvre d'art. Alors le vrai dandy, le dandy absolu, c'est quelqu'un comme Bowie, par exemple.
Mais la tombe, par exemple, d'Oscar Wilde fait de la mort d'Oscar Wilde un événement pour tous les gens qui vont la voir
c'est
au
vrai,
Père-Lachaise.
C'est la tombe la plus visitée, avec celle de Jim Morrison. Donc c'est un mausolée de marbre blanc qui représente un sphinx ailé. C'est Wilde qui s'en va enfin après tous ses déboires. Et sur ce sphinx scellé de marbre, il y a ses attributs sexuels, mais qui ont été endommagés par des étudiants peu scrupuleux. Mais en tout cas, ce n'est pas là que Wilde était enterré au départ.
Endommagé, mais embrassé aussi.
Oui, embrassé aussi. Il y a toute une série, on peut voir sur les marbres, le marbre blanc, toute une série de lèvres rouges qui sont ou des hommes ou des femmes qui vont embrasser la tombe de Wilde. Et c'est vrai que c'est une véritable œuvre d'art. En plus, c'est un sphinx. Wilde était féru d'égyptologie. Le visage de ce sphinx reproduit le trait de Wilde, ses lèvres assez épaisses et très charnues, son regard un peu langoureux. Mais il faut pas oublier que c'est bien des années après sa mort que les restes de Wilde ont été transférés au Père-Lachaise. En fait, Wilde était enterré d'abord en 1900, le 30 novembre 1900, il est mort. Donc en plein automne, un jour ou deux après, il a été inhumé dans un petit cimetière, le cimetière de Bagneux. Donc dans la grande banlieue parisienne, il y avait 9 personnes en tout et pour tout le jour de son enterrement. Aucun représentant de l'intelligentsia française à part Paul Fort. 9 personnes en tout et pour tout, dans un petit cimetière avec un petit cercueil en bois de sapin qui a croulé, qui a craqué parce qu'il pleuvait très fort. Et c'est bien des années après que l'amant, le dernier amant d'Oscar Wilde, Robert Ross, a fait une souscription auprès des riches londoniens pour avoir une tombe digne de ce nom. Il a commandé alors à Epstein, qui était un sculpteur à l'époque très renommé, un monument. Et donc plusieurs mois après la mort de Wilde, ses restes ont été transférés de Bagneux au Père-Lachaise, où il est encore aujourd'hui, et avec un verre qui maintenant entoure la tombe, parce qu'on avait peur que les baisers et les gens qui vont toucher cette tombe...
Les baisers finissent toujours par abîmer.
Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous disais avec Jim Morrison, là aussi, ce sont les deux tombes les plus célébrées et les plus visitées. Je vous dis ça parce qu'il y a des liens aussi étroits entre Wilde et puis certaines icônes du rock. On a parlé de Bowie, mais on aurait pu parler de Jim Morrison ou même de Bob Dylan, dont vous allez parler plus tard.
Alors Daniel Salvatore Schiffer, on a commencé un petit peu par la fin cette émission. Il faudrait revenir au début et peut-être d'abord à l'histoire de ce patronyme Wilde. Le nom complet d'Oscar Wilde, c'est Oscar Fingal, alors je le prononce pas bien, O'Flaherty Wiles Wilde.
Oui.
Quand il naît, le 16 octobre 1854 à Dublin, c'est une allitération poétique avant la lettre.
Exactement, parce que la mère de Wilde, Lady Wilde, qui était une grande poétesse, et qui militait pour l'indépendance de l'Irlande dans un journal qui s'appelait The Nation, La Nation. Donc c'était une indépendantiste, elle rêvait d'Italie et elle se faisait appeler Speranza. C'était une assez bonne poétesse d'ailleurs. Et tous les samedis, après-midi, elle avait à Dublin le salon littéraire le plus couru, où Wilde, tout petit, s'amusait à rencontrer les plus grands écrivains à l'époque. Il y avait George Bernard Shaw, qui s'amuse à prendre le petit Wilde sur ses genoux et le faire un petit peu danser, comme cela. Il avait le grand poète Yeats, qui sera plus tard prix Nobel de littérature. Donc Wilde était tout petit et immergé dans la poésie, dans les arts. La mère de Wilde était quelqu'un d'assez flamboyant.
Donc c'était une militante, alors
oui,
ça c'est quand même intéressant.
Une militante pour l'indépendance de l'Irlande, et elle était catholique, contrairement au père de Wilde, qui était protestant.
Et lui aura les deux baptêmes.
C'est ça, oui. Et il va en faire le thème de l'importance d'être constant. Donc, Wilde naît dans la société bourgeoise dublinoise, en Irlande. Son père est chirurgien. ophtalmologue. C'est l'ophtalmologue attitré pour l'Irlande de la reine Victoria. Nous sommes dans l'époque victorienne et il est protestant. La mère Speranza Lady Wilde est catholique. Et effectivement, le petit Oscar et son frère, qui est 2 ans plus âgé, vont tous les deux être baptisés en cachette par la mère. Wilde a 3 ans ou 4 ans et son frère aîné en a 5. Et ils vont être baptisés en cachette, en catimini, parce que la mère de Wilde ne peut pas dire qu'elle baptise ses enfants catholiques alors qu'ils sont nés protestants officiellement.
Lui, Oscar Wilde, serait plutôt de cœur catholique plutôt que cette rigueur protestante.
Voilà, il est de cœur catholique parce qu'il aime la pompe, il aime les habits des prélats, il aime le rouge, le pourpre et l'or. Des cérémonies et des églises catholiques. Il mourra d'ailleurs à la fin de sa vie avec l'extrême onction. Il mourra catholique. Et dans le portrait de Dorian Gray, un des plus beaux chapitres du portrait décrit l'atmosphère des églises avec l'encens, avec les dentelles des petits enfants de cœur, avec les crosses, les mitres. Tout cela, Wilde est fasciné par cela. Il n'aime pas trop la rigueur ni anglicane ni protestante et se veut et se voudra toujours catholique.
Alors vous parliez du secret qui entoure ces deux baptêmes. Le secret, la famille Wilde connaît ça assez bien et son père notamment a 2 familles, oui. La famille officielle et un peu en parallèle, en miroir, dites-vous, la famille officieuse.
Oui, c'est ça, parce que le père de Wilde était un grand coureur de jupons. Il n'était pas très beau, mais il avait beaucoup de faconde. Il était très célèbre, avait beaucoup d'argent. Donc, il séduisait volontiers les femmes. Et puis, comme il était chirurgien, il en a parfois abusé. Et il y a eu un procès retentissant contre le père de Wilde, où une des patientes du père de Wilde disait qu'elle avait été violée. Il l'avait endormie, elle aurait été violée. Donc, elle porte plainte. Et il y a déjà un procès célèbre, donc le père de Wilde.
Donc il y a ce parfum de scandale quand même autour
c'est
de
ça,
la
oui.
Et famille c'est Wilde depuis déjà depuis tout petit, ce moment-là.
Oui. Et c'est la mère de Wilde qui sauve pratiquement son mari, donc son mari qui a ce procès à Dublin, qui va défrayer la chronique, et elle le sauve en témoignant pour lui. Et à la fin de la vie...
C'est Mère Courage.
Oui, c'est Mère Courage, exactement, exactement. C'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres de mon Wilde publié chez Gallimard, c'est Mère Courage. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, Oscar, enfin à la fin de sa vie, 5 ans avant la fin de sa vie, en 1895, quand il commence son, quand il a son procès, il peut fuir. Et sa mère lui dit, ne fuis pas, tu dois affronter le procès comme ton père. Il s'est sauvé de son procès, tu vas te sauver aussi. Sauf que pour lui, ça n'a pas réussi.
Je crois que pour les étrangers, c'est-à-dire pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, Wilde a toujours été considéré comme un écrivain soi-disant anglais. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'Irlande faisait partie de la Grande-Bretagne. Donc il était classé comme écrivain anglais. Mais depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que les influences de jeunesse, surtout de jeunesse sur Wilde, les influences celtiques, les influences irlandaises, sont extrêmement fortes. La tradition orale de l'Irlande étant quelque chose que lui avait appris son père tout en étant jeune. C'est l'aspect surtout du parleur, du conteur dans Wilde qui est l'influence celtique, l'influence de l'Irlande. Il faut se souvenir qu'il avait passé quand même jusqu'à son 24e année en Irlande, malgré le fait qu'il est allé à Oxford. Il a passé toutes ses vacances dans l'Ouest ou à Dublin, donc l'influence irlandaise sur Wilde est énorme.
Une interview, un extrait d'une interview de Merlin Holland. Merlin Holland, c'est le petit-fils d'Oscar Wilde. Mais dites-moi, Daniel Salvatore Schiffer, pourquoi ne s'appelle-t-il pas Merlin Wilde? On a commencé à parler du patronyme de Wilde. Et on va voir que ce patronyme, d'abord, il va s'effacer à un moment donné des affiches du théâtre londonien.
Exact.
Et puis, au fur et à mesure, il va même disparaître de l'état civil de sa descendance.
Oui. Ce qui est amusant, c'est que Wilde, en fait, descend d'une famille hollandaise. son ancêtre le plus célèbre était un mercenaire qui travaillait à la solde de celui qui viendra Guillaume le Conquérant. Et pour le remercier, Guillaume le Conquérant a anobli ce mercenaire hollandais qui s'appelait De Wilde, qui est aussi un peintre hollandais et dont certaines œuvres sont exposées au Rijksmuseum à Amsterdam, aux côtés de Rembrandt ou de Vermeer. Eh bien, Guillaume le Conquérant va anoblir De Wilde et il va le faire anglais et donc il va devenir De Wilde. Mais comme « de » n'est pas une particule aristocratique en Angleterre, contrairement à la France, le « de » va disparaître, elle va devenir « Wilde ». Voilà l'origine du nom d'Oscar Wilde. Mais ce qui est intéressant, c'est que le petit-fils d'Oscar, aujourd'hui, qui est d'ailleurs le commissaire de cette très belle exposition au Petit Palais de Paris, Merlin Holland, ne s'appelle pas Wilde, mais Holland. Le lien avec « de Wilde », le lien avec « de Wilde » hollandais de Guillaume le Conquérant. En fait, la femme d'Oscar Wilde, Constance Lloyd, quand Wilde est en prison, elle va en Suisse, du côté de Neuchâtel, passer des vacances avec ses enfants pour se reposer. Elle était fatiguée et triste avec tout ce qui se passait autour du procès d'Oscar Wilde. Et elle arrive à Neuchâtel et le patron de l'hôtel lui demande son nom, ses papiers, et il apprend qu'elle s'appelle donc Constance Wilde. Or, le nom était tellement, à l'époque, sulfureux. Le procès de Wilde, c'est un véritable scandale qui défraye la planète entière, notamment les États-Unis, où Wilde, dans sa jeunesse, avait été faire une série de conférences pendant un an. Donc, il la chasse avec ses deux enfants de cet hôtel, le patron de l'hôtel. Elle se retrouve à la rue avec ses deux enfants en bas âge et ses valises. Le nom de Wilde est importable pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de patronyme et elle prend comme nom de famille le prénom de son frère, le deuxième prénom, Holland, qui est un aristocratique en Angleterre.
Mais alors, plus dur encore, Oscar Wilde lui-même, quand il va sortir de prison, va aussi changer de nom et va s'affubler d'un nom d'emprunt assez étrange, Sebastian Melmoth.
Voilà, parce que donc, quand il va en prison, il est déchu de tous ses droits, de ses droits paternels, il ne peut plus approcher ses enfants, il ne peut plus approcher sa femme, tout est vendu, tous ses biens sont vendus pour pouvoir payer son procès. Son nom même est rayé du registre de l'état civil. Il quitte la prison de Reading et le soir même, il s'en va pour la France, où il va finir par mourir. Et il prend un nom d'emprunt, Melmoth, qui est en fait un roman de son grand-oncle maternel, Charles Mathurin, qui s'appelait Melmoth the Wanderer, Melmoth ou l'homme errant. Donc il meurt sous le nom de Sébastien Melmoth. On ne sait pas que c'est Wilde qui meurt lorsqu'il meurt à l'hôtel d'Alsace le 30 novembre 1900.
Un grand garçon, élégant, bien habillé, selon les lois anglaises et les lois françaises, très sûr de lui, plaisantant avec plaisir sur des sujets scabreux la plupart du temps. Maintenant, c'était un causeur évidemment très bien, mais il y avait des moments où il était un peu fatigant.
Dans quel sens?
Parce qu'il parlait beaucoup de lui.
Rachild, qui faisait à 90 ans le portrait d'Oscar Wilde, sans occulter ce qui sera toujours un trait saillant de son caractère, c'est-à-dire le culte de soi, mais peut-être, vous allez nous le dire, Daniel Salvatore Schiffer, peut-être ne peut-on pas être un dandy, même pas absolu tout à fait, si on n'a pas un peu le culte de soi.
Oui, alors c'est ambigu. En fait, il y a des liens très étroits entre Wilde et Nietzsche. Je dis souvent que Wilde était le plus nietzschéen des écrivains, que Nietzsche était le plus wildien des philosophes. Or, Friedrich Nietzsche dit dans Par de la bien et mal une phrase très juste qui aurait pu être dite par Wilde, parler beaucoup de soi est la meilleure façon de se cacher, surtout lorsque l'essentiel est du verbe taire. Et donc, Wilde parlait beaucoup, mais en fait, c'était pour mieux dérouter le public. Et le vrai Wilde profond était en fait impénétrable. Et je pense que Rachild, avec toute l'estime et l'admiration que j'ai pour son œuvre, n'a peut-être pas tout à fait compris cette dimension.
Ou alors elle avait envie de faire un bon mot, comme
oui, mais arriver. Elle n'est pas la seule. Hein. Une autre grande dame qui a connu Wilde, Sarah Bernhardt, n'a pas toujours été tendre non plus Anvers Wilde, vous avez eu la gentillesse de rappeler la seule tragédie de Wilde, Salomé. Il l'avait écrite en français directement pour Sarah Bernhardt. Et Sarah Bernhardt a toujours refusé de la jouer, de l'interpréter, tellement le nom de Wilde était sulfureux, elle ne voulait pas se compromettre. Et quand Wilde, en prison, qui était sans argent à sa sortie de prison, veut revendre la pièce Salomé à Sarah Bernhardt, qui elle est richissime, elle refuse.
Oui, ou elle laisse traîner, disons que.
Oui, et elle l'a finalement interprétée, mais longtemps après la mort de Wilde, en Angleterre, à Londres, en anglais, mais ne l'a jamais interprétée à Paris, en français, alors que la pièce, à l'origine, est écrite pour elle et en français directement.
Alors, vous parlez de Nietzsche, Daniel Salvatore Schiffer. C'est peut-être l'occasion, justement, de revenir un petit peu sur la formation intellectuelle de Wilde, qui était un élève modèle, d'abord enfant, un petit savant, et puis après à la Portora School, puis à Trinity College, donc la grande université de Dublin. Signalons quand même que durant ses études à Dublin, son adolescence, sa jeunesse est lourdement endeuillée par la perte de sa sœur et de ses deux demi-sœurs dans des circonstances tragiques.
Voilà, la mort a toujours rôdé autour de Wilde. Il perd sa jeune sœur, Isola, qu'il aimait beaucoup. Hein. Lorsque Wilde mourra, on va retrouver dans ses petits objets tout ce qui lui reste, une enveloppe avec une mèche de cheveux d'Isola qu'il a toujours gardée pendant des années auprès de lui. Ses deux demi-sœurs, donc des filles de son père, ce fameux coureur de jupons qu'il a eu hors mariage, eh bien, elles sont mortes aussi dans des circonstances tragiques. Leur robe a brûlé lors d'un bal à côté d'une cheminée, d'un feu de cheminée. Et ce qui est intéressant, c'est la formation intellectuelle de Wilde. Donc, il fait Portora School à Dublin, Trinity College, mais surtout Oxford.
C'est l'un des meilleurs étudiants de Trinity College.
Oui, c'est ça. Il parle plusieurs langues. Bien sûr, l'anglais, mais aussi le français. Il est élevé par une nounou française, l'italien, le grec et le latin. Il traduit à vue d'œil les grands auteurs grecs et latins. Il est traduit en anglais. Il est le meilleur élève. Il a d'ailleurs un prix très important. Le Newsgate Prize.
Mais il faut dire qu'il a de bons professeurs, et notamment John Pentland Mahaffey.
Oui, c'est à Trinity.
À Trinity.
Et puis à Oxford, surtout, il a les deux plus grands philosophes de l'époque en Angleterre. Ils sont très distincts, très différents, mais ce sont deux monstres sacrés. Il y a Walter Pater, qui est hédoniste, matérialiste, un amoureux de la Renaissance italienne et de Florence. Et John Ruskin, ensuite, qui est lui un idéaliste, un spiritualiste, qui est un amoureux de Venise. Et ce sont ces deux maîtres, Walter Pater, l'hédoniste, d'une part, l'épicurien, et John Ruskin, le platonicien, l'idéaliste, qui, tous les deux, vont influencer Wilde et vont faire de lui le dandy. C'est à Oxford qu'il devient vraiment dandy. Et le dandysme, c'est justement ça. C'est une synthèse entre l'hédonisme épicurien, qui était Walter Pater, et l'ascèse stoïcienne, la discipline, qui était Ruskin. Et Wilde a parfaitement intégré ces deux dimensions, à la fois l'hédoniste et l'ascète, ce qui est la définition même du dandysme.
Oui, parce qu'il y a un côté théoricien.
Oui.
Chez Wilde, on a l'impression qu'il est comme ça au naturel, mais en fait, à Oxford, et avec ses deux professeurs, il va structurer quand même sa pensée. Quels en seraient les grands axes, notamment peut-être dans le rapport entre l'art et la vie.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment Walter Pater et John Ruskin qui lui ont donné cet amour de l'art. Lorsque Wilde est à Oxford, il va faire un voyage. C'était à l'époque une chose due pour tous les enfants, les fils de bonne famille. C'était de faire un voyage en Grèce et en Italie, chez les classiques. Et le premier voyage qu'il fait, c'est en Italie. Et il va à Florence. Il fait vraiment le tour de la Toscane, voir les œuvres d'art. Il est fasciné par Florence. Puis ensuite à Venise, parce que Ruskin a écrit un livre qui s'appelle Les pierres de Venise, dont Proust parle dans La recherche du temps perdu. Proust parle beaucoup de Ruskin. Pater lui a écrit sur Florence un livre qui s'appelle La Renaissance, dont Wilde dit qu'il est son livre d'or, son livre de chevet. Et Wilde est vraiment nourri par cet hédonisme de Pater et par ce platonisme de Ruskin. Et Wilde écrit 4 essais philosophiques dont personne ne parle. Le recueil de ces 4 essais s'appelle « Intention ». Et c'est là qu'il écrit des véritables essais sous forme de dialogue, la plupart, des véritables dialogues platoniciens ou socratiques. Il écrit « Le déclin du mensonge »,« Le critique comme artiste »,« La vérité des masques », et puis « La plume, le crayon, le poison », qui est moins un essai, celui-là, c'est plutôt une nouvelle. Mais en tout cas, 3 essais importants de véritable philosophie de l'art. Il lisait beaucoup Kant, Hegel, on l'a vu dans ses notes d'écoliers et d'étudiants à Oxford. Il aimait la philosophie, en particulier Emmanuel Kant, dont la troisième critique, qui est « La faculté de juger », est un des plus beaux livres d'esthétique qui soit.
C'est la compagnie des auteurs et nous parlons d'Oscar Wilde avec Daniel Salvatore Schiffer. Bon, parmi la pensée, ce qui a structuré la pensée d'Oscar Wilde, plus inattendu se trouve Karl Marx. Alors pas un Karl Marx trop littéral, mais tout de même un socialisme, disons, qu'il a même théorisé. Dans un ouvrage, est-ce que vous pouvez nous parler de la forme de socialisme qui était celle d'Oscar Wilde?
Ah ben, je vous remercie de me poser cette question. Vous êtes un des rares à en parler, je vous en remercie.
C'est assez étonnant.
C'est assez étonnant, mais vous avez vraiment très très bien lu mon modeste petit hommage à Wilde, cette biographie de Wilde.
En folio biographie.
Pardon?
En folio biographie.
En folio biographie, oui. Effectivement, Wilde. A lu Marx et pas seulement. Je vous ai parlé de Hegel et Marx dérive quand même de Hegel. Bon, ça c'est un autre cours, c'est un vrai cours de philosophie bien sûr. Mais Wilde écrit un petit livre qui s'appelle L'âme de l'homme sous le socialisme. Ce livre paraît lorsqu'il est en prison. Donc il va en prison en 1895 et en sort en 1897. Et ce livre sort lorsqu'il est en prison, mais il l'a écrit un petit peu avant. Alors c'est en fait une utopie socialo-libertaire. Il y a à la fois du socialisme et du, pas vraiment du communisme, mais en tout cas, plus que Marx, c'était plutôt les anarchistes, des gens comme Proudhon ou Bakounine, et libertaires, ça sûrement, c'est une véritable utopie libertaire. Mais il y a aussi les influences de la Grèce antique, donc il essaie de faire un mélange, une synthèse, comme toujours, comme souvent chez Wilde, entre là le socialisme libertaire, d'inspiration Proudhon, et l'antiquité grecque, certains philosophes comme Platon ou Socrate, voire Aristote, tout en y ajoutant une dose de christianisme, parce que Wilde a toujours été fasciné par la religion. On a parlé du catholicisme, et Wilde, dans L'âme de l'homme sous le socialisme, dit que l'avenir de l'humanité, s'il y en a un, c'est une convergence entre le socialisme, le platonisme, l'idéalisme platonicien, et le christianisme. Dans ce livre-là, il dit notamment que la figure de Jésus, il ne croyait pas spécialement en Jésus, de sa nature divine, mais il admirait l'homme parce que c'était quelqu'un qui s'était révolté. Il y a l'aspect rebelle chez les dandys qui est très important. Il s'était révolté contre l'État, contre à la fois les Juifs et les Romains. Il s'est à ce point révolté qu'il a fini par être crucifié.
Il s'identifiait même
à Jésus. Il dit même textuellement que c'est le premier des poètes romantiques. Mm-hmm. C'est ce que Wilde dit dans L'âme de l'homme sous le socialisme à propos de Jésus et qu'il répétera dans son De Profundis, qu'il écrira lui en prison. Et donc, il dit que Jésus est le premier des grands poètes romantiques, voire des premiers dandys, par son dépouillement, par son aspect rebelle, par ses bons mots, les paraboles, par exemple. Vous avez dit très justement que Wilde était un conteur. Ben, Jésus n'a rien écrit, il n'a fait que conter, exactement comme Socrate. Il n'a fait que parler à des disciples ou à des jeunes, à séduire les foules, exactement comme faisait Wilde, comme Bouddha, comme de grands penseurs auxquels Wilde se réfère constamment. Et la figure de Jésus est vraiment, indépendamment des écritures, Wilde ne croyait pas spécialement en Dieu, la question n'est pas là. Mais la figure de Jésus le fascinait, comme celle de Socrate ou de Bouddha, qui sont des maîtres à penser. Et Wilde, à sa manière, était un maître à penser. C'est pour cela qu'il se permet de dire qu'il n'a mis que son talent dans ses œuvres, et il a mis tout son génie dans sa vie. Lorsqu'il arrive à 20 ans aux États-Unis pour faire sa conférence, on lui dit « Qu'avez-vous à déclarer ?» Il dit « Je n'ai rien déclaré sinon mon génie ».
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et vous, Pierre Croce, qu'avez-vous à déclarer ? Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour
Daniel. Votre génie bonjour. Aussi seulement ou d'autres choses pour passer la douane ?
Non, aujourd'hui, je vais vous parler de Bob Dylan, dont les mots peuvent nous clouer au sol. Ce sont les mots de David Bowie que vous avez évoqués, Daniel. Alors, Bob Dylan est sorti de son silence récemment à propos de l'attribution assez polémique de son prix Nobel de littérature. Alors, c'est sur cette polémique que je voulais revenir. On a presque eu droit à une bataille d'Hernani entre les gens très en colère que le prix soit attribué à un chanteur et non à un écrivain, et ceux qui étaient au contraire contents de voir que son œuvre était saluée par les gens de l'édition, par la littérature, les gens qui célèbrent la littérature. C'est assez similaire parmi les lecteurs. Quand nous avons annoncé l'attribution du prix sur Babelio ou sur notre page Twitter ou Facebook, on a eu les deux mêmes réactions, assez virulentes d'un côté comme de l'autre.
Alors, Bob Dylan a une page auteur sur Babelio, donc ça semblerait laisser croire que les contributeurs de Babelio le placent assez haut.
En effet, il a une page depuis longtemps, les lecteurs n'ont pas attendu le prix Nobel de littérature pour inscrire ses livres sur Babelio. On retrouve 13 ouvrages en tout, parmi eux il y a plusieurs types de textes assez différents les uns des autres. C'est finalement une œuvre assez diversifiée qui a été récompensée par le prix Nobel. On retrouve par exemple Tarantula, un recueil de textes assez étrange, un livre spécial, très spécial, trop spécial d'après un de nos membres. Tarantula n'a ni queue ni tête, c'est rond comme une araignée avec beaucoup de pattes, ça part dans tous les sens, ça grouille, ça peut piquer, mais on en sort toujours vivant. C'est l'avis d'un autre lecteur qui, pour le coup, a été très conquis par ce recueil, publié en 71. Même si, en fait, les textes ont été écrits un peu plus tôt, dans les années 60, on sait que Bob Dylan était ami avec Ginsberg, on peut retrouver une trace de la Beat Generation dans ses textes. Alors on se doute que ce n'est pas pour cette unique œuvre de fiction que Dylan a reçu son Nobel de littérature. Un livre qui a été beaucoup mieux accueilli, ce sont ses chroniques. Le premier volume de ses mémoires a été publié en 2004. Alors les critiques sur Babelio sont très enthousiastes. En 2013, une de nos membres écrivait « On le savait poète, on l'aime musicien, il est une légende de la folk music et grâce à ses chroniques, on le découvre avec bonheur et admiration, talentueux écrivain ».
Mais on se doute aussi, Pierre Croce, que ce n'est pas non plus pour cette autobiographie qu'il a reçu son prix Nobel.
Non, vous avez raison. Ce n'est pas cette autobiographie, incomplète d'ailleurs, puisqu'on attend toujours le volume 2, près de 10 ans après, qui lui a valu d'avoir le prix. Ce sont ses textes mis en musique sur ses albums que l'on retrouve sous la forme écrite dans des recueils qui lui ont valu de décrocher le prix. Presque tous ces recueils sont référencés sur Babelio et critiqués positivement. Certains, dans leurs critiques, ont d'ailleurs essayé de disséquer certains textes de Dylan, comme ils le feraient de certains poèmes d'Edgar Allan Poe ou d'Oscar Wilde.
Alors, est-ce que c'est le seul chanteur à être présent sur Babelio ?
Non, il y en a beaucoup d'autres, comme Leonard Cohen, Françoise Hardy ou encore le rappeur DC's. Il y a des liens évidents entre littérature et musique. Leonard Cohen était d'ailleurs écrivain et poète avant de tenter modestement sa chance dans la chanson, inspiré d'ailleurs par Bob Dylan, puisqu'il espérait le croiser au Chelsea Hotel à New York. En fait, Bob Dylan était déjà parti. Alors on ne représente plus Mathias Malzieu, qui écrit des romans à succès et qui est à la tête du groupe de rock Dionysos. Ses romans sont très appréciés, ses textes très poétiques également sont appréciés par les lecteurs. Dernier exemple de ces auteurs qui sont entre littérature et musique, Jacques-Alain Léger avait lui fait le parcours inverse de Leonard Cohen. Il a enregistré plusieurs disques avant de se lancer dans l'écriture de romans. Ces disques, il les a publiés sous le nom de Melmoth, une autre référence à Oscar Wilde. Pour l'anecdote, on lui doit une première traduction de Tarantula, le recueil de Bob Dylan. Alors peut-être que les jurés du Nobel ont voulu, à travers ce prix, saluer les liens entre la musique et la littérature. Je pense que les fans d'Oscar Wilde connaissent bien ces liens, ces textes ayant inspiré des centaines d'œuvres musicales, du rock à l'opéra. Alors Mathieu, peut-être que bientôt vous nous proposerez une compagnie des auteurs autour de Bob Dylan.
On va y réfléchir, merci Pierre, et à très bientôt.
Said truthful vengeance, there could be lies to the floor. Brought a few more people on, and put the fear in a whole lot more.
Song for Bob Dylan de David Bowie, c'était pour vous ça, Daniel Salvatore Schiffer. Vous écoutez,
beaucoup,
mais vous appréciez.
Oui.
J'ai quand même envie de vous demander, avant qu'on passe l'archive, entre Bob Dylan et Oscar Wilde, est-ce que vous voyez des similitudes ?
Bien, en tout cas, à travers Bowie, oui, puisque Bowie aimait beaucoup, bien sûr, Oscar Wilde. Bowie découvre Oscar Wilde à travers son maître en pantomime, qui était Lindsay Kemp. C'est Lindsay Kemp qui fait découvrir à David Bowie Oscar Wilde. C'est David Bowie lui-même qui le dit. Et puis, il y a cette chanson de Bowie en hommage à Dylan qu'on vient d'écouter. Et puis, il y a une chanson de Bob Dylan lui-même, quelques années après, qui s'appelle Handy Dandy, qui est un hommage au dandy. On n'imagine pas que quelqu'un comme Bob Dylan ait pu s'intéresser au dandysme. Bien si, il a fait une chanson dans les années 90 en hommage au dandy, Bob Dylan.
Je suis la seule personne en vue, en ce moment, à porter une fleur à la boutonnière. La mode, c'est ce que l'on porte soi-même. Ce qui est démodé, c'est ce que les autres portent. De même, la vulgarité n'est que la façon dont les autres se comportent. Et le mensonge n'est rien que la vérité des autres. La vie en communauté est quelque chose de terrible. La seule société possible est celle de soi-même. S'aimer soi-même, c'est être assuré d'être aimé pour la vie. Ask your good
friend Dylan if it is a while down the old street. Eh oui, s'aimer soi-même, c'est être sûr d'être aimé pour la vie, Daniel Salvatore Schiffer. Ça aussi, c'est un enseignement de ses professeurs d'Oxford, finalement.
Oui, certainement, en tout cas Walter Pater, oui, qui était, comme je l'ai dit, un grand épicurien, un grand dandy à sa manière. Et c'est là que Wilde devient le dandy que l'on sait. C'est une chose très importante. Sauf que Wilde, à la fin de sa vie, s'aimait beaucoup moins parce que ses déboires et la prison l'avaient affaibli, il avait beaucoup grossi. Ses traits étaient défigurés un peu.
Est-ce que physiquement, parce qu'il faisait très attention à la beauté physique, qui était primordiale chez lui, est-ce que lui a parlé ou écrit des choses sur son propre physique ?
Pas sur son propre physique, non. À ma connaissance, non. Sur lui, sur son physique, il n'a rien écrit. Mais lorsqu'il devient le dandy, donc à Oxford, et qu'il fait notamment cette grande série de conférences pendant un an aux États-Unis, là, il soigne vraiment son apparence. Il soigne vraiment ses mises. Il part aux États-Unis, du nord au sud, de l'est en ouest, avec une énorme valise. Et dans cette valise, une panoplie d'objets dandy, des gants, des cannes, des chapeaux haute forme, toute une série d'habits, de chaussures.
Son fameux manteau vert à fourrure.
Son fameux manteau vert à fourrure dont son meilleur ennemi, James Whistler, le peintre, à la croisée du pré-raphaélisme et de l'impressionnisme, se moquait très cruellement. Il était très soucieux de son apparence, Wilde, mais n'a jamais beaucoup écrit sur son apparence. On ne sait pas grand-chose de ce qu'il a pu penser de lui-même.
En tout cas, il n'a jamais eu un physique de jeune et faible, comme les physiques qu'il appréciait.
Voilà, c'est ça, oui. Il n'était pas spécialement beau, mais il avait beaucoup de charme, et surtout beaucoup de charisme. Même les gens qui ne l'aimaient pas spécialement le lui reconnaissent. Sarah Bernhardt, les femmes, Lily Langtry, qui était la grande tragédienne, la grande comédienne anglaise, la Sarah Bernhardt anglaise, reconnaît en lui aussi beaucoup de charme.
Et la voix apparemment.
La voix, particulièrement. La voix était très importante. Et André Gide parle de sa voix. André Gide a parfaitement raison de dire que c'était un conteur. Wilde s'écoutait parler. Il avait une très belle voix. Il avait beaucoup soigné son accent. Au départ, il avait un accent irlandais. Puis il est allé suivre des cours de diction chez des professeurs de théâtre à Londres. Et là, il a vraiment soigné ses intonations, sa voix, son accent, et il aimait beaucoup parler, et les gens aimaient beaucoup, beaucoup l'écouter. Quand il y avait des dîners en ville, il était vraiment le centre du monde. Pas tellement parce qu'il le voulait, mais parce qu'il avait un magnétisme qui faisait qu'il attirait spontanément les gens. Il avait un regard très profond, et une façon d'aimanter l'auditoire qui était très prenante.
Et alors, au cours de ce fameux voyage aux États-Unis, qui dure du 24 décembre 1881 au 27 décembre 1882, un tout petit peu plus d'une année, il va rencontrer un certain nombre de personnes, d'écrivains, et notamment, par exemple, Walt Whitman, qui était déjà assez âgé. Comment ça se passe, leur rencontre?
Oui, Wilde demande à rencontrer certains grands écrivains ou philosophes, comme Emerson, par exemple, le plus grand philosophe à l'époque américain, mais surtout Walt Whitman, qui était un grand poète que Wilde admirait. Wilde a toujours aimé les poètes un peu sulfureux. Comme dans sa jeunesse, il aimait par exemple le poète anglais Swinburne, dont plus personne ne parle aujourd'hui, mais qui a notamment écrit Lesbos. Swinburne, grand poète anglais, très décadent, en pleine époque victorienne. Les victoriens disaient de Swinburne que c'était un satyre lâché dans un salon victorien. Et donc, Wilde aussi, lorsqu'il va aux États-Unis, demande à rencontrer Walt Whitman, qui avait écrit à l'époque Feuilles d'herbe, son très beau recueil de poèmes. Mais Whitman est homosexuel, comme Swinburne d'ailleurs. Donc, quand Wilde, jeune et peut-être pas beau, mais avenant, en tout cas, et séduisant, sûrement, rencontre Walt Whitman, ça se passe plutôt bien, parce que Walt Whitman le trouve bien, et un petit flirt, c'est beau, entre eux, et Wilde va le revoir une deuxième fois, et quand Wilde sort, il écrit d'ailleurs une lettre, c'est dans sa correspondance, qu'il apprécie encore le baiser chaud que lui a donné sur ses lèvres Walt Whitman.
Oui, mais alors Henry James, qui était aussi... on n'en sait rien d'ailleurs. Dont on pense qu'il était aussi homosexuel. Pourtant, ça se passe pas bien du tout quand ils se rencontrent au cours de ce même voyage.
Henry James détestait Wilde. Henry James était un esthète. Mais c'était pas un dandy. Il faut faire une distinction entre les dandys et les esthètes. C'est pas pareil.
Pourtant, c'est bien l'esthétisme que théorise Oscar
Wilde. Oui. Mais Wilde était certainement un esthète, mais le côté dandy avait... occulter plutôt l'esthète chez Wilde. Wilde parlait d'esthétisme, mais n'était pas spécialement un esthète, c'était un dandy. Quelle est la différence entre l'esthète et le dandy? Ben, c'est le côté tragique. Les dandys, il y a vraiment un côté tragique, un côté sombre chez eux. J'appelle un clair-obscur en chair et en os, un oxymore vivant. C'est un côté flamboyant, solaire, et un côté crépusculaire, sombre.
Donc vous ne voyez pas de tragédie, par exemple, dans la vie de Henry James, comme vous en voyez dans la vie des dandys?
En tout cas, pas comparable. Wilde est mort pauvre, désargenté, ayant tout perdu. Il est vraiment mort comme un vrai poète maudit. La mort de Wilde fait songer à celle de Baudelaire. Et Baudelaire dit une chose très belle dans « Mon cœur mis à nu », un de ses deux journaux intimes avec Fusée. C'est la double postulation simultanée. Très vite, en 30 secondes. Et Baudelaire écrit textuellement, et c'est tout à fait wildien. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées. L'une, invocation à Dieu, où élévation est une joie de monter en grade. L'autre, invocation à Satan, ou le diable, est une joie de descendre dans la fange, dans ce qu'il y a de plus sombre dans le psychisme humain. Eh bien, le dandy, il est ça. Il y a des fois un côté très flamboyant, très solaire, très flambeur, et puis un côté très sombre qui va vraiment dans l'inconscient et dans les forces les plus sombres du psychisme qui se retrouve chez Wilde. Et le portrait de Dorian Gray, c'est vraiment ça. À la fois un côté flamboyant, jeune et beau, Dorian Gray, mais un côté terriblement sombre.
Mais tout aussi attirant.
Et tout aussi attirant. Et c'est d'ailleurs ce qui va attirer certaines figures du rock. On parlait de Jim Morrison, on pourrait parler d'Amy Winehouse, du Club des 27, comme on dit, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. À la fois des gens extrêmement magnétiques, extrêmement charmeurs, mais avec un côté sombre. Lou Reed, par exemple, le grand ami de David Bowie, le Velvet Underground, Andy Warhol, à la fois cet aspect flamboyant, ce côté sombre, qui est vraiment, à mon avis, la quintessence de l'art, que l'on pense à Van Gogh, qui fait des soleils crachés, comme disait Jacques Brel, qui s'écrase sur des champs de blé dorés, et qui en même temps se suicide, et a une fin tragique. Est-ce que c'est pas ça la quintessence de l'art? Pensons à Nietzsche, Zarathustra, sur les cimes, mais en même temps, qui finit dans l'abomination, comme le Don Giovanni de Mozart.
Alors, il y a aussi des choses très belles, évidemment, qui arrivent pendant ce voyage. Et le plus beau cadeau qui a jamais été offert à Oscar Wilde, eh bien, c'est la nièce de John Keats, qui l'adorait, et qui va lui donner quelque chose d'extraordinaire.
Un poème. John Keats était le poète préféré d'Oscar Wilde. Dans sa jeunesse, Wilde ne jure que par John Keats. C'est un des trois grands poètes romantiques. Il y a Shelley, Keats et bien sûr mon cher Lord Byron, auquel j'ai consacré aussi une biographie dans la même collection que Wilde chez Gallimard, Folio Biographie. Eh bien, Wilde adore Keats, il aime beaucoup Shelley. Dans son bureau, lorsqu'il est marié avec Constance, il y a dans son bureau un grand linteau avec un poème de Shelley, mais son poète de prédilection, c'est Keats. Et lorsque Wilde va à Rome, il va sur la tombe de John Keats, puisque Keats est enterré à Rome, dans le cimetière protestant, et aussi sur la tombe de Shelley, qui est aussi à côté de Keats, au cimetière protestant.
Il leur dédiera à chacun un poème.
La tombe de Keats et la tombe de Shelley, c'est dans le premier livre qu'a jamais publié Wilde, un recueil de poèmes qui s'appelle Poems. Parce que Wilde naît d'abord comme poète, avant d'être dramaturge, avant d'être romancier ou philosophe, il est d'abord poète. Et donc John Keats, pour en revenir à lui, c'est son poète préféré, et lorsqu'il va faire sa série de conférences aux États-Unis, il rencontre la nièce Emma, s'appelle-t-elle, c'est son prénom, la nièce de John Keats aux États-Unis, et elle lui offre le sonnet en bleu de John Keats, l'original, et il pense que c'est son plus beau cadeau. Il vénère Keats, il vénère ce cadeau. Sauf que ce cadeau, à la fin, sera vendu, lui aussi.
Pour quelques shillings, c'est ça qui est terrible.
Lorsque Wilde sera en prison, tout cela va être vendu, y compris le poème original autographe de John Keats, qui était une véritable relique pour Wilde. Tout est vendu de Wilde, hein. Ses tableaux pré-raphaélites de Burne Jones, Dante Gabriele Rossetti, William Morris. On les connaît moins en France, mais c'est comme Monet, Manet ou Degas en Angleterre. Eh bien, tout ça va être vendu, y compris le poème autographe.
Donc c'est vraiment un saccage de la vie d'Oscar Wilde qui va bientôt se mettre en place.
Oui, c'est
mais
ça.
Il faut mentionner d'abord qu'il y a un mariage.
Oui.
Parce que si l'on parlera demain avec Charles Dantzig, plus particulièrement du procès, il faut quand même dire que l'homosexualité de Wilde, elle n'est pas immédiatement assumée et que, ou alors immédiatement découverte, je ne sais pas. Et il se marie avec une femme que vraisemblablement il aime quand même, et il mène une vie bourgeoise, oui. Il a des enfants,
en fait,
Daniel Salvatore Schiffer.
Constance Lloyd, donc sa femme officielle, est la deuxième femme connue que Wilde ait rencontrée. Il a d'abord eu une jeune fiancée qui s'appelait Florence Balcombe, mais avec laquelle il n'a jamais consommé, entre guillemets, physiquement. C'est-à-dire la raison pour laquelle, après presque un an de fiançailles, elle le quitte et épousera Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Mais Wilde donc fait...
Vous faites un parallélisme là entre...
Non, pas spécialement, mais...
Entre Bram Stoker et Oscar Wilde, non ?
Non. Sauf d'autres l'ont fait. Moi, je ne le fais pas ce parallélisme, mais d'autres l'ont fait. Et donc, Wilde est abandonné par Florence Balcombe. Il est à Oxford pendant ce temps-là. Après Oxford, il fait cette tournée aux États-Unis qui le mènera dans toutes les grandes villes et même les villages les plus reculés des États-Unis, y compris le Nouveau-Mexique et le Canada, donc toute l'Amérique du Nord. Et... à son retour des États-Unis, il est riche et célèbre. Il épouse Florence Lloyd. Constance Lloyd, pardon. Et il l'épouse dans une église du centre de Londres. Il a deux enfants avec elle, Cyril et Viviane. Viviane sans E, qui est un prénom masculin en Angleterre. Et Merlin Holland, l'actuel petit-fils, est le fils de Viviane Holland. Eh bien, il se marie donc avec Constance. Il a deux enfants. Mais ce qui va éloigner Wilde de Constance, bizarrement, c'est la maternité.
Oui, ça, il ne supporte pas.
Voilà.
Non pas d'avoir des enfants, mais qu'elle se retrouve enceinte.
Voilà, c'est ça. Wilde, en tant qu'esthète et dandy, il écrit dans ses lettres, hein, il a des mots très désagréables, fort peu amènes, fort peu gentils envers sa femme. Il ne supporte pas ce corps qui se déforme, qui grossit avec la maternité, qui a des lignes comme dans du marbre, dit-il. Elle vomit, elle a tout le temps des nausées. Tout ça qui est trop réel, en fin de compte, tout ça qui ressemble trop à la vie, qui n'est pas assez du côté du rêve. Voilà, c'est ça.
C'est pas assez à côté du rêve
ou à côté de son idéal de beauté. Et autant Constance était jolie lorsqu'il la rencontre, il la compare à une fleur de lys, la fleur préférée des peintres pré-raphaélites, toute blanche, délicate, fluette, autant lorsqu'elle est enceinte, est déformée, et ça l'éloigne de Constance, parce que ça l'éloigne de son idéal. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Lord Alfred Douglas, Bozzy, et un autre aussi, Robert Ross, qui va devenir son amant le plus fidèle, le plus loyal.
Celui qu'il aimera peut-être le plus.
Voilà, Bozzy, c'était une passion qui va le dévorer, qui va le mener en prison, tandis que Robert Ross va être une passion, mais aussi un amour loyal et beaucoup plus durable, beaucoup plus solide. Mais pour en revenir à votre question, effectivement, Wilde découvre l'homosexualité pendant son mariage. Et il fait venir ses amants chez lui. de façon tout à fait impudente, il vit sous le même toit avec sa femme, son amant ou ses amants et ses deux enfants. Et c'est cela qu'on va lui faire payer aussi très cher lors de son procès.
Donc c'est loin d'être un mari idéal. Quand vous parlez de son dégoût pour sa femme quand elle est enceinte, ça peut rappeler aussi la façon dont il cherche à s'isoler quand il est à Oxford, de tout bruit par exemple. Lui qui aime beaucoup la musique ne supporte pas les craquements du parquet et il en fait payer un petit peu les conséquences à Scout, qui est son domestique. Oui. Il y a quelque chose là de très étrange, de très étonnant, enfin qui va très très loin dans la façon dont, par exemple, le bruit le gêne.
Oui, le bruit le gêne. Les odeurs, bien sûr, les parfums qu'il n'aime pas le gênent.
Donc quand il donne une réception, il faut que son majordome aille déboucher les bouteilles dans une pièce à côté.
Oui,
parce que
voilà.
Ça fait trop de bruit.
Par
il faut exemple, également qu'il porte des chaussons en feutre.
Oui.
Enfin, on est là dans quelque chose qui dépasse un petit peu l'entendement.
Oui, et en plus, Wilde aimait beaucoup la musique. Il aimait notamment Chopin et Mozart. Il faut pas oublier que Wilde devient franc-maçon à un moment donné, hein, comme Mozart. Il a une passion pour la flûte enchantée, l'opéra maçonnique de Mozart. Il adore Chopin. Et le frère de Wilde, donc, dont on a déjà parlé, auquel on a fait allusion, qui est 2 ans plus âgé que Wilde, est organiste à Oxford et il joue merveilleusement bien Chopin. Et donc Wilde aime beaucoup écouter la musique, notamment les choses délicates de Chopin, les ballades, les nocturnes, les valses. Et il déteste le bruit quand il écoute de la musique. Il peut piquer des colères dithyrambique, grotesque parfois, monstrueuse. Bien qu'il soit gentil dans la vie, Wilde est quelqu'un de très gentil, de très doux, très affable, très généreux, beaucoup de compassion pour les gens en général. Mais il ne supporte pas être dérangé quand il écrit ou quand il écoute de la musique, quand il est concentré sur son œuvre. Alors, il y a une chose que je tiens quand même à dire, c'est que même s'il accueille chez lui les amants pendant qu'il est marié et qu'il a ses enfants, une chose est certaine, c'est que Wilde a toujours été un très très bon père. C'est une grande injustice de lui avoir ôté ses enfants à la fin de sa vie, parce que autant Wilde a pu être un mari détestable pour Constance, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai appelé un de mes chapitres un mari non idéal, c'est une évocation de sa pièce, à mon avis la plus belle, un mari idéal. Il était certainement
dont on parlera jeudi.
Et voilà, c'est ça, oui. Il n'était certainement pas un mari idéal. Par contre, il était un très très bon père. Ça, ses fils l'ont toujours dit.
Et alors, oui. Un très bon père qui a eu en fait un malheur dans sa vie, qui est de rencontrer Lord Alfred Douglas.
C'est le début de la fin.
C'est effectivement le début de la fin. On peut faire un portrait rapide avant de se quitter de Lord Alfred Douglas,
oui,
qui semble un peu avoir le rôle du démon au fond.
Oui, c'est ça. C'est la beauté du diable.
D'Oscar Wilde.
C'est la beauté du diable ou le démon du bien. C'est surtout la beauté du diable. Wilde a à peu près 40 ans. Il vient de publier Le portrait de Dorian Gray, qui est en fait son seul roman. Au départ, c'est pas un roman, hein. C'est un feuilleton pour un magazine américain. Et donc, il rencontre Bosie à Oxford. Wilde a 40 ans, Bosie en a 20. Wilde est célèbre, Bosie est fasciné par le grand maître. Wilde est fasciné par le jeune Bosie et se noue un lien, une histoire d'amour. Sauf qu'à l'époque, dans la société puritaine, l'homosexualité est interdite. L'Amendment Act numéro 11 l'interdit rigoureusement, peine de prison de 2 ans. Or, Wilde s'affiche publiquement avec Bosie, notamment au Café Royal, le café du centre de Londres. Et là, le père de Bosie, le marquis de Queensberry, fait suivre Wilde et le diffame. Et là, va s'entamer le procès que Wilde va finir par perdre, hélas.
Et ce procès, nous en parlerons demain en particulier avec Charles Danzig. Merci beaucoup, Daniel Salvatore Schiffer. Tout de suite, je vous propose d'écouter, comme les dandys doivent l'aimer, un peu de poésie.
Bonjour, venez, venez, sans autre précaution, nous entrons dans le Jardin des Langues de Gérard Massé. Jardin des Langues. Dans le livre Bois dormant. Dédicace pour Anne Moureuse et quelques amis, ce livre qui s'est écrit selon leur lecture. Écriture de la main gauche, la main italique, quand je croyais parler seul. Une grenouille volubile, ventre ouvert au soir, parle au fond de moi en épelant mes organes, Dans sa langue de veuve, elle mange la prairie, sachant qu'en langue vive, au verbe ignoré, organe se dit poisson, lune, gonflé par la mort. Le ciel devient alors plaisir du sens, autrement dit, la soulographie des rouges gorges et l'animal rouge, encornant la nuit, s'entend comme coqueluche. À Tours, où nous nous sommes rencontrés en prévision d'une lecture publique le 10 novembre, à Grenoble, oui, je vous dis tout, Gérard Massé m'avait apporté un petit lot de livres vivants, trépidants, entre la prose et le vers. Promesse Tours et Prestige, paru chez Gallimard. Mais tant de questions volent encore autour de la lampe, comme des ailes de papillon que soulève une vague aux antipodes. Qui a poussé dans le dos le suicidé du pont? Qui a noyé le poisson dans des eaux si peu profondes? Et la lune était-elle ronde quand se sont remplis les océans? Où est passé le rêve d'une flamme humide léchant la roche? D'un feu mouillé d'où naîtraient les pierres? Et pourquoi les contraires aimantés par l'esprit restent-ils entre eux à des années-lumière? À quoi ressemblaient les fleurs quand la première abeille quitta l'Afrique, l'abeille dont la danse est prisonnière de l'ambre et des millions d'années qu'ont roulé les vagues de l'Asie mineure à la Baltique? Pourquoi n'ai-je pas appris à lire dans ce jardin où le plus vieil iris s'appelle désir? Pourquoi n'ai-je pas appris à aimer dans une prairie que personne ne fauche et qui grandit toute seule comme une forêt primitive? À quel âge commence-t-on à se plaindre du temps pour opposer au vent qui tourne, aux sautes d'humeur des météores, le faux souvenir d'une seule journée qui résume des saisons entières? Une brève journée d'hiver à la pureté de cristal, un long jour d'été au soleil fixe, étalon or d'une enfance imaginaire. Retour à Bois dormant. Le livre Bois dormant et autres poèmes en prose. Nos poèmes sont semblables aux toiles d'araignée qu'Héliogabale recueillait à la fin de chaque jour. Peut-être aussi fragiles et transparents que ces toiles toujours prêtes à se déchirer. Souvent aussi vains et parfois plus compliqués. C'est pourtant grâce à eux que nous essayons de saisir, au fond des chambres où nous cherchons le sommeil, les pattes de mouche de la réalité. À la fin, la voix de la poésie est sombre et froide, mais ce n'est pas l'hiver. Cette débâcle, ce n'est pas la glace qui se met à craquer, c'est le pont flottant des rêves qui s'effondre sans un bruit.
Jacques Bonafé qui lisait des textes de Gérard Massé. Un grand merci à vous, Daniel Salvatore Schiffer, de nous avoir éclairé sur la biographie d'Oscar Wilde, sur un bout de la biographie, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Je rappelle que votre biographie, parue chez Folio Gallimard, est toujours disponible. Et puis plus récemment, c'était en mai dernier, vous êtes donc intéressé à un autre dandy dans votre ouvrage « Petit éloge de David Bowie, le dandy absolu » aux éditions François Bourin. Cette émission était réalisée par Christine Digère. À la console, il y avait Juliette Delperroux. Et à la préparation, comme d'habitude, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost, Eva Le Saux. Demain, c'est donc Charles Danzig qui sera avec nous pour évoquer notamment l'homosexualité et le procès d'Oscar Wilde. Dans un instant, c'est les sciences, Nicolas Martin et la méthode scientifique sur France Culture. I'm so glad you're here.